certaines féministes continuent, comme si de rien n'était, à dénoncer la perpétuation, voire l'aggravation de la domination masculine, ces mauvaises joueuses d'un nouveau type ne reconnaissent pas leur victoire.
Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé.
Elle n'incarne pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
Violées dans ce pays.
Voilà, eh ben, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs.
Bienvenue dans l'Instant Féministe, une émission proposée par Radio Bulle et l'association féministe à Genèse, La Mèche.
Bonjour à tous, nous sommes Marie et Charlotte de La Mèche. Nous sommes avec Ingrid et Jérémy des Créations d'Ingrid. Vous écoutez l'Instant Féministe, le podcast animé et réalisé par l'association féministe à Genèse, La Mèche, sur Radio Bulle, fréquence 93.6. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche environ 1,7 million de personnes en France, la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est-à-dire la difficulté ou le manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques par pauvreté, est source de nombreuses inégalités pour ces personnes, partout dans le monde, y compris en France. Avant d'aller plus loin, on peut aussi préciser que les femmes ne sont pas les seules à avoir leurs menstruations, et d'ailleurs, elles ne les ont pas toutes. Les menstruations concernent également les personnes intersexes, non-binaires, trans, etc. La précarité menstruelle est un sujet central à traiter dans le sens où elle concerne une grande diversité de profils, des personnes SDF, en prison, jeunes élèves, etc. La précarité menstruelle s'explique par plusieurs causes qui, selon les cas, peuvent être cumulées. D'abord, les causes économiques. Les protections périodiques ne sont pas gratuites en France, comparées à d'autres pays comme l'Écosse où la gratuité est totale pour tout le monde. La précarité menstruelle est amplifiée par les prix de certains antidouleurs peu remboursés que des personnes qui ont des règles douloureuses ou des maladies liées à cela comme l'endométriose devront acheter sans compter l'état physique dans lequel ces personnes concernées se trouvent qui peut handicaper leur quotidien. La précarité menstruelle est aussi liée au manque d'accès à l'eau qui est pourtant essentiel, mais aussi, il faut le dire, la précarité menstruelle est aussi ignorée parce que les menstruations sont encore taboues et considérées comme sales dans de nombreux endroits du monde, à commencer par la France. Par exemple, dans les pubs pour les protections menstruelles, on préfère montrer du liquide bleu plutôt que du rouge. Et encore une fois, on en revient au même sujet. Des femmes et des minorités de genre, de personnes, sont opprimées parce qu'on parle de leur corporalité et ça dérange. Et ces oppressions se retrouvent dans d'autres aspects de la vie, pas seulement du côté économique, mais aussi social et professionnel. Et les conséquences de la précarité menstruelle sont variées. Par exemple, on peut parler des infections. Selon une enquête menée en 2019 par l'Obs et Rue 89, les femmes en prison utilisent des bouteilles en tant que cup parce que les serviettes sont trop chères et donc au niveau sanitaire, ce n'est pas adapté du tout. Elles sont obligées d'en acheter ou de trouver des systèmes D car les kits arrivants qu'on leur donne à l'entrée en prison et qui sont censés leur fournir des protections nécessaires sont soit incomplets, soit non distribués. C'est aussi un système D qu'on retrouve chez les femmes SDF, qui en plus, depuis que les toilettes publiques deviennent payantes, sont encore plus précaires à ce sujet. On peut aussi remarquer que ce sont des personnes totalement oubliées par les gouvernements. La dernière mesure qui a été mise en place par le gouvernement français était de mettre 1500 distributeurs à travers la France dans des résidences CROUS et dans les centres de santé universitaires, donc une solution uniquement réservée aux personnes scolarisées. Elles sont bien sûr aussi précaires, mais elles ne sont pas les seules.
Les problèmes de santé peuvent aussi être liés aux produits chimiques qui composent les protections jetables. Ils sont dangereux pour la santé car ils sont cancérigènes, irritants, allergènes, asséchants, mais aussi peuvent avoir un impact sur la fertilité. Et ces effets, même s'ils sont dits minimes, voire inoffensifs, ces composants restent quand même préoccupants, à la différence des États-Unis par exemple, où la commercialisation des protections intimes sont très réglementées. À la différence des États-Unis où la commercialisation des protections intimes sont très réglementées, alors qu'en France, on n'a pas de réglementation depuis la fin des années 70.
Une autre conséquence de la précarité menstruelle prend place dans le lieu de travail ou d'études. L'absentéisme ou le décrochage scolaire peut être un problème pour certains élèves qui n'arrivent pas ou ne peuvent pas ou n'osent pas dire à leurs parents qui, elles, ont leurs règles, elles n'ont pas de protection hygiénique. Ces élèves vont préférer dire qu'ils sont malades ou ne pas aller à l'école pour ne pas être dans une situation inconfortable par rapport à leur flux.
Ces situations inconfortables sont liées aussi aux structures non adaptées, notamment à l'école. On peut commencer à avoir nos menstruations à 9 ans, quand on est encore en primaire, alors que l'énorme majorité, pour ne pas dire toute l'école, n'est pas adaptée ou équipée pour gérer des élèves qui ont leurs règles.
Et d'ailleurs, par rapport aux élèves, on peut prendre l'exemple du Lot-et-Garonne, où au niveau de la précarité menstruelle, on a quelques chiffres, Ingrid.
Alors oui, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis nourrie de différentes données d'associations pour justement essayer de voir un petit peu la précarité menstruelle en Lot-et-Garonne. Je me suis ciblée sur des données sur des femmes de moins de 20 ans. Donc, sachant qu'on a retrouvé à peu près 4% de femmes qui sont victimes de précarité menstruelle, donc on estime à 1400 femmes lot-et-garonnaises de moins de 20 ans qui seraient victimes de précarité menstruelle, dont la moitié souffrirait d'absentéisme, voire de déscolarisation. Donc ça ferait, oui, 700 jeunes filles de moins de 20 ans qui seraient, en absentéisme au moins, quoi.
Maintenant qu'on a pu parler de toutes ces causes et des conséquences de la précarité menstruelle, on peut se demander ce qu'on peut faire pour mettre en place des solutions pour en finir avec la précarité menstruelle, ou en tout cas l'amoindrir au maximum. Donc on va vous présenter les créations d'Ingrid, du coup, avec Ingrid et Jérémy qui sont avec nous aujourd'hui. Du coup, Ingrid et Jérémy, vous avez une entreprise qui produit des protections menstruelles durables. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Donc Ingrid Walbrou, donc je représente donc les créations d'Ingrid, mais plus globalement en fait, l'atelier de confection qui s'appelle WD Protection, qui est vraiment dans le sanitaire. Les créations d'Ingrid, c'est plus une marque qu'autre chose. Et WD Protection, son rôle, c'est justement d'œuvrer dans le sanitaire sur un côté quand même de confection durable et avec un impact aussi en termes d'emplois locaux. Et de rendre aussi la confection française, enfin là, pour le coup, lot-et-garonnaise, accessible à tous. C'est vraiment sa première tâche.
Ben moi, je me présente, du coup, Jérémy Dacosta. Alors moi, en plus de WD et des créations, je parlerai peut-être de OZ, qui est donc une association qu'on a montée aussi, dont WD fait partie. OZ a pour but d'aussi émanciper et de promouvoir justement ces serviettes-là dans le département, sur le territoire, pour pouvoir venir lutter contre cette précarité et aussi accompagner donc les personnes qui sont face à la précarité menstruelle, venir les accompagner et leur apporter des solutions concrètes sur le territoire avec des choses qui sont faites en France. Et donc avec le concert de WD, c'est aussi d'aller chercher une normalisation des serviettes hygiéniques à aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, qui ne sont pas normés. Et aujourd'hui, il y a un réel sujet là-dessus aussi, c'est d'apporter des solutions, oui, mais saines. Et ça, c'est très très important, c'est qu'elles soient saines et surtout sans danger pour les utilisatrices et utilisateurs.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos protections durables, nous expliquer comment elles fonctionnent, combien de temps on peut les porter, etc.
Alors justement, ce qu'on peut dire aujourd'hui est les axes à venir. Il y a plusieurs étapes. Ça fait depuis le 2019 qu'on prototype des serviettes hygiéniques, avec la volonté quand même d'avoir un tissu qui soit environnemental. Enfin, là, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais en gros, un tissu quand même vertueux pour l'environnement. Donc ça, c'est un axe important. Et qui soit sain et antibactérien en tant qu'affaire, voilà. Et aussi, l'idée, c'est que ça soit tissé en France, donc c'est un textile innovant. Donc ça, on a su travailler avec un tisserand qui a sorti ce tissu, ce textile. Et l'idée, ben là, on est en phase où on prototype les serviettes. Donc on est quand même sur une fin de prototypage, hein, plus voilà, on ajuste. Là, on va passer au niveau des tests en laboratoire, chose qui n'est pas obligatoire. Très clairement, on pourrait les commercialiser comme ça, il n'y a pas de souci. Mais justement, c'est ce qu'on veut dénoncer aussi, qu'il n'y a aucun test aujourd'hui à ce jour obligatoire sur les protections hygiéniques. On a contacté l'AFNOR, qui est un organisme de normes, hein, normes CE, dispositifs médicaux, et on s'est mis en relation avec plusieurs laboratoires pour faire des tests divers. Ça va être le développement des staphylocoques, le développement bactérien sur différentes souilles en fait, qu'on va mettre sur la serviette. Ça peut être le sang, effectivement, on va mettre des protéines. Donc on va faire des tests aussi pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infection urinaire. Donc voilà, en fait, on va venir souiller les serviettes et faire des tests à différents lavages et différentes températures aussi. à savoir 30 et 60 degrés, puisqu'on veut aussi tendre vers un dispositif médical sur ce complexe qui est innovant. Et voilà, avec différentes phases de lavage pour voir justement aussi sa durée d'innocuité. Sachant aussi qu'on va faire des tests qui sont hyper importants, c'est ceux des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc là, c'est aussi un autre laboratoire qui va s'occuper de ces tests. Parce que ça nous paraît essentiel, parce qu'effectivement, la problématique qu'on voit, hein, justement, UFC Que Choisir a dénoncé ça, c'est que déjà, bon, il n'y a aucun test. Mais au-delà de ça, c'est qu'il peut y avoir des perturbateurs endocriniens qui peut-être, sur une utilisation, n'ont pas posé problème, mais les cycles viennent enfin, en moyenne tous les 28 jours. Donc imaginez, enfin, tous les 28 jours fois X années, c'est sûr qu'on peut y avoir des problèmes concrets. Donc voilà, donc, ça nous paraît ça important en tout cas. Donc on travaille sur cet axe-ci avec des laboratoires. Voilà, pour vraiment avoir cette serviette vertueuse. Donc on ne peut pas parler de durée de vie, on l'estime à 5 ans. Mais on pousse voilà, les analyses par deux utilisations par cycle. Voilà, qu'on puisse les utiliser deux fois, fois 12 fois par an, enfin ça fait 24 utilisations par an, et jusqu'à 5 ans, donc on va regarder vraiment le développement bactérien, ses étapes, alors pas forcément à tous les cycles, on va faire les 5 premiers cycles, pour voir déjà sur les 5 premiers cycles comment ça se comporte, et après à voir si la fibre, elle se détériore au fil du temps, voilà. Après moi j'attire l'attention sur aussi le fait qu'on entende les serviettes, bah, on peut la porter jusqu'à 12 ans. Alors, si on dit ça, enfin, il y a deux aspects à voir sur la serviette. Il y a l'absorption, effectivement, qui peut contenir pendant 12 heures. Mais il y a le côté développement bactérien. Je ne sais pas si vous savez, là, le port des masques, je prends l'exemple des masques, puisqu'une bouche, concrètement, c'est chaud. Enfin, voilà, on dégage la chaleur, on de l'humidité. Si on compare, enfin, voilà, un sexe féminin, on peut être dans les mêmes circonstances. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un développement bactérien qui se passe. Donc, c'est pour ça que, généralement, qu'on parle d'une utilisation de 4 heures, parce qu'il y a les fluides qui vont générer sur le masque, et il y a un développement bactérien qui est favorisé par la chaleur et l'humidité. C'est pareil dans la culotte. Donc, faut vraiment faire attention à ce côté-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut vraiment faire les tests sur le côté bactérien. Je peux dire que la serviette, on peut l'utiliser pendant 12 heures. Et après, ça va dépendre des cycles de chacune. On a tous nos cycles qui sont différents. Donc, je ne vais pas parler en durée, en fait, d'usage. Par contre, voilà, on va faire des tests, en tout cas, pour savoir l'innocuité voilà, sur les serviettes. C'est surtout le côté bactérien qui pose problème sur les durées d'utilisation. Donc, tant qu'il n'y a pas de retour labo, je préfère pas me prononcer, même si le complexe est antibactérien par nature.
Après, la seule chose qu'on pourrait rajouter par rapport à ces serviettes-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des tests qui ont été faits sur la durée de séchage. Parce que c'est aussi important, quand on a des protections, de rester au sec. C'est beaucoup plus confortable, notamment quand on fait du sport, des choses comme ça, puis même dans la journée. Donc, du coup, il y a des tests d'absorption qui ont été faits par donc le tisserand. Et aujourd'hui, on est sur quelques secondes en termes de séchage, alors que par exemple sur du coton classique, on est sur à 2 à 3 heures de séchage. Donc on a vraiment déjà des tests qui nous permettent de dire que le produit peut vraiment remplir toutes ses fonctions. Et à ça, et puis après il y a un autre test que j'ai fait moi personnellement, c'est le taux d'absorption. Et alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur internet une quantité de règles moyennes donc lors de menstruation, et j'ai mis la quantité sans le savoir en fait moyenne d'une durée complète dans une seule serviette. Donc on a des serviettes qui sont hyper absorbantes aussi. Donc ça aussi c'est important de le dire parce que du coup, peu importe entre guillemets la quantité de perte qu'il y aura, on sait que la serviette pourra convenir à tout type de flux. Parce qu'il y a aussi ce gros problème-là, c'est la typicité des flux, la typicité de chacune face aux règles, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure. Vous savez qu'il y a énormément de critères à prendre en considération. Et là, on pense que la serviette peut vraiment venir englober en un seul produit tous ces critères-là, où on peut apporter une réelle solution.
Et du coup, quand on s'est rencontrés, vous nous aviez dit que vous aspiriez à ce que ces serviettes soient accessibles à tous et toutes, donc à un prix un peu... Enfin, est-ce que vous pourriez nous parler des prix ? En tout cas, comment vous comptez faire pour faire en sorte que ces serviettes soient accessibles, sachant que actuellement les serviettes recyclables, j'allais dire, enfin lavables, ça reste un coût, enfin de celles que j'ai vues en tout cas, ça reste un coût. Donc je voulais savoir un peu comment... Comment ça se passait à ce niveau-là?
Alors effectivement, hein, ce qu'on voit, moi, bah, j'avais cette problématique-là aussi, hein, concrètement. Sans tabou, moi, j'ai des problèmes d'infertilité, donc je me suis posé la question il y a quelques années. Et sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça qu'en fait, le sujet des serviettes me tient aussi particulièrement à cœur pour cet aspect-là. Voilà, j'ai voulu acheter des serviettes lavables, hein, concrètement. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit « Ah ouais, quand même ». Là, franchement, je suis mieux à payer quand même un petit peu tous les mois, entre guillemets, même si tous les mois rapportés, enfin voilà. Mais c'est un sérieux budget. Et bon, et est-ce pour autant qu'elles sont plus saines? Après, à les laver, il y a l'entretien. Hein, il y en a, bon, bah, elles s'amusent, ça ne leur pose pas de problème. Moi, concrètement, au plus facile, au mieux, enfin, même sans pré-lavage dans l'idéal, je ne suis pas sensible à la vue du sang, mais enfin voilà. Il y a deux écoles, hein, de toute façon, dans les utilisateurs. Il y a ceux que ça ne dérange pas de voir. Moi, ça ne me dérange pas particulièrement de voir, mais bon, à la longue, enfin voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai prototypé. Mais j'ai voulu vraiment aussi qu'elle soit accessible financièrement, parce que je me dis, enfin, à un moment, en moyenne, c'est 16 euros la serviette. En fonction des tailles aussi, donc en fonction du flux, plus ou moins élevé, quand on peut monter à 25 euros la serviette nuit. Enfin voilà, et après, bon, il y a les serviettes qui viennent d'Asie, bon là, elles sont plus accessibles, mais qui ne sont pas forcément éthiques, forcément. Donc l'idée, en fait, c'était déjà de pouvoir réduire au maximum le coût de la serviette, avec un modèle de confection qui soit plus adapté aussi, qui prenne aussi moins de temps, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a le travail derrière de confection, et de trouver un équilibre, et de trouver ce fameux tissu aussi, qui pourrait, en fait, par ce système, réduire les coûts de confection. Et du coup, là, la serviette, on est aux alentours de 8,50 €. C'est quand même, voilà. Mm-hmm. Mais par contre, voilà, la notion de flux, enfin, de nuit, ou enfin voilà, les différentes gammes qu'on peut avoir. En fait, moi, je propose 3 tailles, mais elles sont au même prix. En fait, je veux pas que ça soit, si vous voulez, inaccessible. Enfin voilà, chacun a son flux, et pourquoi payer plus parce que j'ai plus de, enfin voilà, j'ai plus de besoins en termes de quantité de serviettes. Donc voilà, elles sont au même prix. Donc là, on fait des kits aussi de 6 serviettes. On trouve que c'est le minimum à avoir sur un cycle. C'est pour ça qu'on fait les tests aussi sur 2. Donc on arrive à peu près 50 € quand même. Mais voilà. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir aussi décrier, donc on essaye de la rendre accessible justement aussi, et de les proposer aux associations aussi qui distribuent ce type de protection, qui sont beaucoup sur du jetable, mais qui en fait, par leur action, voudraient que ça se pérennise aussi, parce que justement, c'est un peu des actions one shot, et quand il n'y a plus, il n'y a plus, mais les règles, elles sont toujours là. Et c'est vrai que ça peut être une alternative aussi, soit en complémentaire, soit vraiment de long terme, et à prendre en unique. Et du coup, ça va venir quand même rassurer celles qui ont ces kits, puisqu'on peut estimer que pendant 5 ans, elles seront à l'abri de cette précarité, ne serait-ce qu'avec 6 serviettes, qui est le minimum. Donc ça permet aux associations de les soutenir aussi, et de pouvoir déployer le maximum de kits pour réduire la précarité menstruelle. Mmh. Voilà. C'est la première action, en tout cas, enfin, qu'on met en place. On essaye de trouver des points d'équilibre aussi, ce qui n'est pas évident. Notre idéal, effectivement, en Écosse, c'est gratuit. Il y a eu un effort quelque part de l'État en réduisant quand même la TVA, qui était à 20%, on est à 5,5. Mais là, voilà, il y a cette règle aussi, cette volonté de certaines associations, bah, de la taxe rose, du coup, donc de mettre une TVA en fait à zéro déjà, parce qu'on ne devrait pas payer en tout cas de la TVA sur des produits sanitaires. Et la gratuité, effectivement, on aimerait qu'elle soit gratuite. Après, il y a une réalité où pour qu'elle soit gratuite, il faut quand même des financements derrière, parce qu'on ne peut pas acheter le tissu gratuitement. Moi, mon tisserand, bah, voilà, la main d'œuvre, c'est pareil. Mais de trouver quand même un système d'équilibre. Et après, je pense que c'est l'engagement aussi des élus à pouvoir dire oui, bah, concrètement, déjà à l'école, c'est un outil de travail. Les jeunes filles sont obligées d'aller à l'école, déjà quand elles sont jeunes, bah, qu'on donne les moyens aussi de pouvoir assurer leur présence. Et après, tout au long de la vie, il y a plein de publics précaires, et c'est pas que dans les écoles, effectivement. Tout à l'heure, j'entendais la population carcérale, c'est un réel sujet. Quand on sait qu'elles ont effectivement quelques serviettes qui sont vraiment pas forcément adaptées, apparemment, alors je les ai pas vues, mais qui sont loin, enfin voilà, d'être clean, je pense. Mais si elles veulent en acheter, concrètement, c'est dans un catalogue et plus 30%, quoi. Donc, ouais, non, en fait, ça reste quand même un réel sujet pour toutes ces populations.
Et où est-ce qu'on peut en trouver des serviettes des créations d'Ingrid, du coup ?
Alors, là, on a un site internet, mais elles sont toujours pas, le dernier modèle, toujours pas à la vente. Parce que là, le tissu est en train d'être fabriqué. En fait, on était en phase d'échantillonnage en 2021. Donc, on en a eu quelques-uns. On a fait plusieurs protocoles de confection parce qu'il y a des ajustements à faire. Les toutes premières serviettes, en fait, on s'est rendu compte que il fallait changer l'aiguille parce qu'en fait, le sang passé à travers le trou de l'aiguille était trop gros sur les côtés. Donc, ça pouvait créer des fuites. Et moi, personnellement, je les ai testés, j'ai eu des fuites, j'étais dégoûtée, hein, j'ai des minces. Et après, je me suis rendu compte, pour des petits détails, il faut calibrer et les machines et le protocole de confection pour que ça se passe bien, quoi. Donc là, normalement, le 1er février, je reçois mon tissu, où là, on va pouvoir concrètement faire la production et la mise en vente. Là, j'aimerais en fait, alors je ne sais pas s'il y a des pharmaciens qui vont nous écouter, mais ça peut être un appel. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré les Restos du Cœur. Justement, on a parlé, c'est un réel sujet, par plusieurs associations. On sait que rien qu'au Restos du Cœur, il y a 1478 femmes. Mais je parle vraiment sur la campagne, du coup, là, d'été, les publics les plus précaires, hein, qui auraient besoin de ces protections. Moi, déjà, ça me paraît énorme. Mais rien que recenser au Restos du Cœur. Donc, à partir de là... ils savent qu'ils peuvent aller jusqu'à certains volumes de kits, mais pas tout. Ils ne peuvent pas répondre à toutes ces femmes. Donc là, on va déjà mener des actions aussi avec au fil des Séoun, je ne sais pas si vous connaissez l'association, mais justement pour pouvoir fournir des premiers kits dès février sur ces publics et puis sensibiliser aussi. Et à la suite, en fait, à partir de mi-mars, c'est vraiment voilà, de pouvoir... donner un maximum de serviettes, de kits, ces fameuses 6 serviettes, c'est vraiment le minimum. Idéalement, ce serait 8, voire 10, voire même 12 en fonction des cycles. Mais de pouvoir au moins fournir à ces femmes ces serviettes. Donc en fait, on imagine peut-être, pour venir chercher le complément, c'est de faire un appel à des pharmacies lot-et-garonnaises pour pouvoir vendre des kits. Ou une partie des kits vendus, ça pourrait alimenter d'autres kits pour justement les Restos du Cœur. Moi, je trouve que ça a un sens. Nous, on a fait aussi, on a été lauréat d'un appel à projet en 2021 sur le Lot-et-Garonne, justement par rapport au sujet de la précarité menstruelle. On sait qu'on va faire une action par rapport, déjà dans un premier temps, les collégiennes, parce que ça relève du département. Et du coup, on sait qu'on va pouvoir fournir quelques kits, au moins, pour les collégiennes, les jeunes filles en tout cas, qui sont aussi présentes au Resto du Cœur, puisque y a les mamans et il y a les enfants, et dans ces enfants, il y a ces personnes-là qui sont là, auxquelles on va venir déjà aussi aider et soutenir les Restos du Cœur dans cette action, quoi.
Sinon, en autre solution, on pourrait aussi soulever la question de la gratuité des protections hygiéniques en France. On le rappelle, la situation aujourd'hui, comme on l'a dit plus tôt, c'est que c'est payant pour tout le monde, même si la TVA, elle est moins importante. Mais par exemple, il y a un modèle exemplaire qui est l'Écosse. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Ingrid ?
Alors, oui et non, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un modèle, j'aimerais creuser, parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais un peu dans le droit et la finance. Donc ça peut peut-être aider, mais justement, de voir un petit peu le modèle écossais, de le creuser, comment ça se passe, parce qu'après, il y a une réalité, hein, quand c'est gratuit, c'est pas forcément gratuit, c'est que la distribution est faite et gratuite, effectivement, que c'est accessible, mais ça reste des produits qui achetés quelque part par un axe. Est-ce que c'est des fonds européens? Est-ce que c'est des fonds écossais? Voilà, si c'est toujours pareil, c'est les fonds viennent bien d'un contribuable, enfin d'action, peut-être un réaménagement de la TVA qui sort au profit d'eux. Mais de voir peut-être ce modèle, est-ce qui serait franchement trop fun à faire, hein, mais moi je kifferais, hein, c'est justement d'avoir tous les tenants et aboutissants, de créer un dossier béton, de pouvoir justement proposer les solutions et de voir avec les publics précaires, voilà, si c'est adapté. adapté. Et c'est carrément peut-être d'envoyer peut-être un rapport et un constat de tout ça à l'État carrément, et de dire ok, bah, en fait c'est un sujet. On parle d'égalité des chances, puisqu'il faut aussi parler des ODD, les objectifs de développement durable de l'Europe, hein, de l'ONU. Et concrètement, on parle d'égalité des chances. On parle aussi de la réduction des inégalités entre hommes-femmes. Et je pense que ça peut être bien, justement, de dire, bah, en adéquation aussi avec ça, c'est une réalité. Bah, on va peut-être trouver un modèle économique à la fois qui puisse intéresser l'État pour réduire les inégalités. Ce serait bien. Et que ce serait pour toutes et tous, j'ai envie de dire aussi, hein, on, la communauté, enfin voilà, toutes. Mais après, voilà, il faut être aussi une réalité, parce que bah, les fonds, ils vont sortir de quelque part. Donc il faut quand même aussi que ça ait du sens et que ce ne soit pas non plus une charge supplémentaire d'État qui devrait être du coup alimentée. Enfin voilà, c'est de trouver aussi un système raisonnable. Mais après, honnêtement, hein, moi je me dis que là, au vu par exemple du kit qu'on est capable de sortir, si l'État déjà fournissait ça, enfin, ça impacte forcément, hein. C'est de l'argent qui pourrait être d'État ou d'Europe, je ne sais pas comment est le modèle écossais, mais c'est de trouver peut-être un modèle vertueux qui permet de limiter le coût. Et aussi, on a réfléchi aussi, c'est à l'après-ville, la serviette. Parce qu'en fait, on se dit que bah, si on voit la serviette comme pas une serviette hygiénique, mais plutôt comme l'isolation dans le BTP, vous allez dire, elle est folle, mais bon. Mais imaginons qu'on arrive à collecter cette serviette. Et que cette serviette, peut-être en partenariat avec des pharmaciens, hein, pourquoi pas, un point de collecte. Hop, j'ai jeté ma serviette, je récupère une autre serviette, ce serait super. Hop. Et ensuite, on collecte les serviettes qui sont souillées, qui sont en fin de vie, mais qu'elles pourraient avoir une seconde vie. On pourrait, par exemple, la déstructurer. On peut en faire peut-être un isolant pour le BTP et revendre cet isolant pour justement... Voilà. Et peut-être que du coup, ça viendrait limiter en plus le prix de la serviette. C'est en fait d'essayer de trouver différents canaux pour pouvoir faire en sorte qu'on trouve un système vertueux pour que la serviette, en fait, elle soit vraiment accessible, mais pas que d'argent public. Mmh. Parce que l'argent public, derrière, c'est quand même, très clairement, les impôts. Donc, moi, je n'ai pas envie non plus que, voilà, que ça soit un modèle où on vient creuser la dette d'État et du coup, que ça soit des choses, voilà. Mais après, avec une serviette lavable, quand on voit le prix du jetable, et au final, là, c'est plus économique concrètement, et puis en plus, hein, ça a plus de sens environnemental. Je pense qu'il n'y a même pas de sujet, il n'y a pas de débat, quoi.
Après, on pourrait faire des systèmes, juste pour compléter les propos d'Ingrid, parce qu'il y a plein de systèmes, quand on y réfléchit, économiques, qui sont réalisables. Maintenant, après, il faut bien sûr amener les gens à prendre ces systèmes-là, mais on pourrait imaginer de le faire comme on le disait tout à l'heure pour les systèmes de lavage, mais on pourrait même aussi le faire pour les systèmes des serviettes. C'est un petit peu comme il existe dans certains restaurants, certains bars, c'est le café suspendu, comme on appelle, où c'est qu'on paye, on va s'acheter un café et on paye le café pour quelqu'un d'autre, et puis il y a quelqu'un qui arrive dans la précarité ou quoi que ce soit, qui peut pas se payer ce café et qui obtient un café du coup gratuitement qui a été payé par quelqu'un. Et ben là, on pourrait très bien imaginer faire ce système-là avec des pharmacies, c'est-à-dire que ben, des personnes qui sont un peu plus aisées, qui ont un peu plus les moyens, achètent des kits de serviettes, et que ce kit de serviettes permette de restituer soit un kit ou soit une serviette, mais déjà un début de solution à des personnes qui sont dans la précarité, qui sont dans le besoin, et qui pourraient aller directement le chercher auprès des pharmaciens. Parce que les pharmaciens aussi, c'est important de les mettre dans la boucle, parce que justement, les pharmaciens ont une écoute attentive, connaissent les gens avec qui passent la porte de leur pharmacie, et puis il y a cet accompagnement. Il y a aussi ce besoin d'être rassuré, parce que c'est vrai que souvent on entend, avec la solution des serviettes hygiéniques lavables, on entend souvent cette question de on dit ouais, mais c'est très rétrograde, on retourne en arrière. Il y a pas cette nuance là il faut qu'on l'enlève de l'esprit aussi, parce qu'aujourd'hui, comme j'aime le dire et comme je le dis très souvent, il faut savoir regarder dans le passé pour prendre les erreurs, prendre ce qui était bon, et aujourd'hui, comme on a la maturité et comme on se dit un peu plus intelligent qu'avant, ben c'est de dire, ben en fait, il y a des choses dans le passé qui étaient très très bien, et aujourd'hui, on peut les remettre au goût du jour. Et donc là, la serviette serviette lavable a tout intérêt à prendre son ampleur et son expansion aussi auprès des gens, mais il faut que justement communiquer, il faut acculturer les gens à ces nouveaux systèmes-là et à cette pensée, si pour certains le pensent rétrograde, mais moi je trouve que c'est un énorme pas en avant. On est un peu comme Neil Armstrong sur la Lune aujourd'hui, hein. C'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité, mais là c'est exactement la même chose.
Oui, et puis de la même manière que les contraceptions sont remboursées par la Sécurité sociale, on pourrait envisager des protections menstruelles remboursées par la Sécurité sociale à partir du moment où c'est pas une condition qu'on choisit, en fait, d'avoir ces règles.
Alors pour ça, justement, je pense qu'il serait bien, c'est justement d'en faire un dispositif médical, quelque part. Chose qui n'est pas à ce jour le cas, puisqu'il n'y a aucun test. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'un dispositif médical, c'est plus drastique. Parce qu'il y a aussi la confection, il faut que ça soit quand même plus sécurisé aussi dans la fabrication. Il y a différentes contraintes. Il faut savoir qu'en France, on est quand même très à cheval sur les normes. Il est plus facile, on va dire, de faire un masque en Chine qu'en France. C'est une réalité, les normes sont très compliquées. Mais ce n'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Après, je pense qu'il faut vraiment plusieurs acteurs autour d'une table et dire concrètement, là, qu'est-ce qu'on fait. Je vais juste donner peut-être quelques chiffres là, qui me font un peu halluciner, parce qu'on parle de précarité. Et il y en a qui vont me dire, bah oui, mais j'ai mes serviettes, c'est super, moi, c'est bon, j'arrive à les avoir. Mais il y a quand même... donc, on parle d'à peu près de 4% de femmes qui sont victimes de précarité menstruelle. C'est déjà beaucoup. Hein. Mais il y a aussi... jusqu'à 19% des fois qu'ils doivent choisir entre un achat de protection périodique et un achat de première nécessité. Donc on va peut-être acheter ces serviettes, mais on ne va pas acheter peut-être de quoi manger concrètement. Dans les 19, il y en a 12 qui vont dire c'est de temps en temps. Et dans les 19, il y en a aussi 7 où c'est régulier. Il y en a qui vont les fabriquer eux-mêmes. Parfois avec du papier toilette, on essaye de trouver des plans B. C'est une réalité, c'est 15% quand même. Et il y en a 24% qui n'utilisent pas autant de protection périodique qu'elles ne devraient. Donc c'est toujours les plans B. Et dans les 24%, pareil, 16% c'est occasionnel et 8% c'est en fait c'est régulier. Donc c'est quand même des chiffres qui sont parce qu'il y a le motif financier effectivement, pas inaccessible financièrement. Mais il y a aussi, on a vu des témoignages de jeunes filles en fait qui n'ont pas de serviette tout simplement parce que les parents sont divorcés. La jeune fille arrive chez le papa qui n'est pas sensibilisé et n'a pas acheté de serviette. Et Et c'est vrai qu'il y a parfois des distributeurs dans certains établissements, donc c'est très bien déjà de mettre quand même ces dispositifs. Alors après, il y a quand même un sujet sur certains établissements où c'est exclusivement dans les toilettes de femmes, voilà. Mais la communauté transgenre, on n'en parle pas. La problématique, c'est quand il y a des périodes scolaires, hors période scolaire, les vacances, c'est vrai que ça peut être aussi un moyen d'avoir accès à la culture quelque part, de pouvoir se déplacer, de sortir, en sécurité. Là, on n'a pas les protections hygiéniques à disposition puisqu'on n'est pas dans l'établissement scolaire. Ça vaut pour les collèges, lycées, fac et autres. Donc
il y a aussi des inégalités de statut aussi, selon qu'on est étudiant ou pas étudiant, lycéen, lycéenne, même peut-être dans certains lieux de travail, peut-être qu'il y a des choses mises en place, mais dès lors qu'on est exclu de certains statuts sociaux, on n'a plus accès en fait à ce qui peut être mis en place, au peu qui est mis en place en fait.
Voilà, il y a ça, et puis quand même quand c'est mis en place, il faut avoir accès aux lieux ressources, j'ai envie de dire. Et le lieu ressource, le mieux, c'est chez soi, hein, je pense. Et chez soi, ça passe soit par du jetable qui vient directement, ou soit peut-être une gamme effectivement de lavables pour pouvoir l'avoir à disposition quand ça arrive, quoi.
Et d'ailleurs, au début de son existence, la Mèche avait signé une tribune dans Libération à l'initiative de l'association Réglez-moi ça, qui lutte contre la précarité menstruelle et les discriminations qui sont liées à la précarité menstruelle. C'était avant les dernières élections départementales et régionales, et la demande était faite que soient mis en place des distributeurs gratuits de protection périodique dans chaque collège, lycée, établissement d'enseignement supérieur, centres sociaux et pharmacies, et ça devait être une priorité pour les prochains élus. Donc encore aujourd'hui, ça reste un combat politique qu'on doit mener pour que les protections périodiques soient amenées, les protections périodiques à être gratuites et sans aucune condition en fait. Quelques chiffres pour conclure sur la précarité menstruelle en France. 1,7 million de femmes seraient victimes de précarité menstruelle en France, selon l'association Règles élémentaires. 33% des étudiantes jugent avoir besoin d'une aide financière pour se procurer des protections périodiques, selon l'enquête FAGE de février 2021. Et 13% des étudiantes déclarent avoir dû choisir entre acheter des protections et un produit de première nécessité, faute de moyens. Et c'était aussi l'enquête FAGE en février 2021. C'était le chiffre que tu disais tout à l'heure, Ingrid.
Oui, tout à fait. Après, là, c'est vrai que là, c'est une étude. Hein. C'est une étude qui a été, oui, c'est ça, IFOP, pour justement voir un petit peu, c'est l'étude de la précarité menstruelle et des préoccupations liées aux règles et aux protections hygiéniques. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, la précarité et aussi les règles d'usage, j'ai envie de dire. Par exemple, les collégiennes, elles ne vont pas forcément aimer que la serviette fasse du bruit. Alors, mmh. c'est peut-être bête, mais c'est vrai qu'on voilà, est un peu pudique et on n'a pas envie que la voisine le sache. Et du coup, on n'ose pas changer sa serviette. Il y a plein de choses, mais c'est un sujet tellement vaste. Il y a trop de choses à faire, quoi. Mmh. Mais il faut les faire concrètement parce que c'est pas normal. En arriver là, c'est pas normal.
Du coup, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté l'Instinct Féministe. C'était Marie et Charlotte de l'association La Mèche. Et merci à Ingrid et Jérémy d'avoir participé. L'émission était sur Radio Bulle, fréquence 93.6.
14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre, une humeur de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. 17 ans, première rupture, même s'il était temps. Mon premier amour, c'est fini, c'est dur, et d'autres soucis. Mais tout finit par passer, ainsi va la vie. Même quand mon cœur s'était déchiré. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. Aujourd'hui, on est comme toutes les fleurs. Un jour on se ferme, pourtant ça fait mal quand s'arrête un cœur. Et moi j'ai grandi, mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, peut-être à perdre ce qu'on aime. Sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. Sauf peut-être à perdre ce qu'on aime.